au bout de la langue. Salutone Sébastien.
Salutone Catel.
Alors aujourd'hui on va faire connaissance avec une des grandes figures françaises de l'espéranto, on va dire.
Ou en tout cas une des grandes figures actuelles.
Actuelle en tout cas, exact, c'est Monsieur André Charpillot. Alors qui est cet André Charpillot, Sébastien?
Eh bien André Charpillot, c'est un sacré personnage pour les gens qui le rencontrent. Donc c'est quelqu'un qui est un petit peu connu en France, en dehors même de l'espéranto, pour avoir gagné à au moins une ou plusieurs reprises, je crois qu'il va nous en parler, à la dictée de Pivot, pour avoir fait zéro faute. Il va expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Il fait également partie de l'Académie d'espéranto depuis quelques années. Et puis c'est un très grand écrivain, enfin à la base c'était un professeur de sciences naturelles, mais depuis qu'il est à la retraite, il s'intéresse vraiment à tout et il a fait des livres sur tout, et il nous en présentera quelques-uns à l'instant. Et puis on donnera tout à l'heure le contact pour savoir comment se procurer ces livres s'il y a des gens intéressés.
Alors c'est un vrai linguiste, André Charpillot.
Ben oui, il est pas linguiste de formation, mais c'est un touche à tout. Il s'intéresse pas forcément même seulement aux langues, mais en tout cas les langues font partie de ses principales passions.
Alors Sébastien, vous l'avez rencontré il y a quelques mois et on va écouter justement cet entretien aujourd'hui.
Salutone André.
Salutone Sébastien.
Alors, en quelle année as-tu appris l'espéranto?
Oh là là, ça ne nous rajeunit pas. En 1944.
Et comment en avais-tu parlé? Et puis, qu'est-ce qui t'a motivé à apprendre l'espéranto?
Le pur hasard. J'avais 14 ans à l'époque. Et alors, ma mère faisait des ménages chez un notaire. Et j'avais trouvé des livres, des petits classiques qui dataient d'ailleurs du siècle précédent. Et je voulais les emprunter. Ma mère, bien sûr, me dit « Oh là là, ne touche pas à ça sans demander à monsieur, à maître, etc. » Bon, je lui pose la question. Il me dit « Oh, les livres qui sont dans la serre, c'est plein de poussière. Oh, si ça t'intéresse, vas-y, emporte tout ça chez toi, ça me débarrassera. » Et parmi tous ces livres-là, entre autres, il y avait un petit livre rouge intitulé « L'espéranto en dilsan ». C'est un livre qui datait de 1900 à peu près. Oh, je me suis dit « L'espéranto, mon père m'a parlé de ça, il m'a dit que ça n'avait pas marché. » Je me suis dit « Je voudrais bien savoir comment c'est fichu, une langue artificielle. » Ben, je me suis mis à apprendre l'espéranto. C'était en dilsan, j'ai appris les dilsans. Tout seul, j'avais l'impression que j'étais le seul au monde à mettre le nez dans cette langue. Voilà, j'avais 14 ans, j'ai trouvé ça très bien, je me suis dit, c'est formidable l'espéranto, c'est dommage que ça n'existe pas. Voilà. Puis après, que j'étais tout seul, ma foi, je m'en suis plus occupé. Et puis, 10 ans plus tard, tout à fait par hasard, je trouve dans un bouquiniste, un livre intitulé « L'espéranto, c'est inconnu » d'André Ribaud. Oh, mais je me suis dit, l'espéranto, c'est vrai, j'ai appris ça il y a 10 ans, ça me dit quelque chose. Alors j'achète le livre. Il présentait l'espéranto, je savais déjà ce que c'était. Mais l'avantage de ce livre-là, c'est qu'à la fin, il donnait des adresses. Et entre autres, il y avait l'adresse de la librairie centrale espérantiste, 41 rue Descartes, qui n'existe plus du tout maintenant. Eh bien, du coup, j'y suis allé. Et je dis, vous savez, l'espéranto, je connais déjà un petit peu. Alors, quand même, la dame m'a proposé de m'inscrire à un cours, parce qu'en 10 ans, je vais un peu oublier quand même. Alors, je me suis inscrit à un cours par correspondance. J'ai fait ça, évidemment, très vite, parce que mes souvenirs de 10 ans avant, ça revenait quand même assez rapidement. Puis, je suis un peu doué pour les langues, ça marche à peu près bien, ça. Et je me suis remis à l'espéranto. Alors là, en quelques mois, ça y est, j'ai eu le diplôme du premier degré, après le deuxième, un peu plus tard le troisième. Et puis j'en suis resté là, d'ailleurs. J'ai jamais passé le diplôme des hautes études. Et puis, je me suis inscrit, et puis voilà, ça y est, j'avais mis le doigt dans l'engrenage du mouvement espérantiste, et puis depuis, j'avais pu m'en arracher.
Et est-ce que, justement, tu t'as beaucoup voyagé avec, tu l'as utilisé dès le début, ou?
Au début, oui, parce que j'étais jeune à l'époque, parce que donc, cette deuxième mouture, là, en 55, j'avais 25 ans. Alors, c'est l'âge où on voyage assez facilement. Alors, je suis allé dans des congrès. Mon premier, c'était le congrès de Marseille en 1957. Alors, j'arrivais là, je savais à peine bredouiller quelques mots, parce que je faisais un cours par correspondance, non par écrit, ça allait très bien, mais alors par oral. Oh là 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 là, j'avais l'accent français, que j'ai d'ailleurs jamais perdu, vraiment. Mais, puis je n'osais pas parler. Alors, petit à petit, quand même, je me suis dit, c'est formidable, je n'ose pas parler, mais je comprends tout ce que les autres me disent. C'est quand même merveilleux, une langue comme ça. Alors bah, je m'y suis mis, puis petit à petit j'ai un petit peu parlé, et puis l'année suivante je fais le congrès de Mayence, et puis en 59 au congrès de Varsovie. Alors je voyageais pas mal effectivement, pour répondre à ta question, de 1955 à 1965, on peut dire pendant 10 ans, j'ai beaucoup voyagé dans toute l'Europe, en moto d'ailleurs, avec un ami, rarement en voiture, en général en moto. Et on était jusqu'à la Finlande comme ça, hein, dans des milieux uniquement espérantistes. En Finlande par exemple, on a passé 3 jours dans une famille où le monsieur ne connaissait rien d'autre que sa propre langue, le finnois, et l'espéranto. Et sa femme ne connaissait que le finnois. Eh bien, on a bien rigolé, on s'est bien amusé. Alors, avec madame, évidemment, non, ça, fallait que son mari traduise. Mais avec lui, on a bu de la bière, on a mangé, on a bu, c'était absolument extraordinaire. Hein. Et on a bien rigolé, surtout. Hein.
Quel souvenir. Mais et ta passion pour les langues est donc existait déjà avant?
Ah oui, ça, les langues, ça m'a toujours intéressé. Ça, quand j'étais en sixième et que je commençais à apprendre le latin, ma grammaire latine me plaisait pas trop. J'avais envie d'en écrire déjà une nouvelle. Bon, mais enfin, évidemment, en sixième, écrire une grammaire, c'est un peu présomptueux. Hein. Enfin, je sais pas, ça m'intéressait, oui. Après, j'étais content. J'ai fait un petit peu de grec, ou très très peu, malheureusement. J'ai fait de l'allemand. J'ai toujours envie de faire autre chose. Un jour, je suis tombé sur un vieux livre d'espagnol que mon père avait vaguement utilisé dans le temps, il était très vieux. Oh, je me suis dit, chouette, je vais apprendre l'espagnol. Bon, ben, j'ai un petit peu appris comme ça, ben, comme on peut faire quand on est tout seul face à son livre. Hein. Et puis, s'il m'était tombé à l'époque une méthode de chinois en main, j'aurais appris le chinois, mais ça ne s'est pas produit. Alors après, petit à petit, ben, je me suis mis de plus en plus. Alors maintenant, il y a des dizaines de langues dans lesquelles j'ai mis le nez. Ça ne veut pas dire que je les parle, évidemment. Pratiquement, je ne parle que le français. Et l'espéranto, c'est absolument tout. Mais les autres, par exemple l'hébreu, je l'ai quand même pas mal appris, puisque j'ai même traduit le Cantique des Cantiques, hein, qui est un livre de la Bible. J'ai traduit en français et en espéranto également, d'ailleurs.
Quand même. Justement, tu parlais du français et l'espéranto. Je sais que tu as aussi une passion aussi pour ta langue maternelle, le français.
Ah bah oui, le français est quand même l'une des grandes langues de civilisation, c'est une belle langue. Ah bien sûr que j'adore le français, c'est que l'espéranto et le français, ça ne s'oppose pas, bien au contraire, ça se complète vigoureusement. D'ailleurs ici nous sommes en Bretagne, mais j'ai aussi appris un peu le breton, pas jusqu'à le parler bien sûr, mais j'ai trouvé que c'est une langue merveilleuse. Le breton est capable de certaines nuances que je ne saurais pas expliquer comme ça, mais certaines nuances que j'ai trouvées merveilleuses, qui n'existent pas en français, même pas en espéranto dans certains cas. Hein. Et tout ça sont des langues qui se complètent. Alors, j'ai un petit peu appris le breton, j'ai appris l'hébreu. À une époque, je suivais des cours d'arabe à la mosquée de Paris. Et puis, alors, j'ai tout chez moi, toutes les méthodes assimilées. Le hongrois, le roumain, le danois, etc. Je dis pas que je les ai toutes étudiées, mais un petit peu, j'ai mis le nez dedans.
Passionné et spécialiste du français, au point, justement, de remporter l'Édicodore en 1998, c'est ça?
Exactement. Plusieurs fois, j'avais fait la dictée de pivot devant la télé. En général, je faisais 3 fautes, 4 fautes. Un jour, ça m'a plu. Bernard Pivot a dit, vous savez, si vous faites moins de 10 fautes, c'est que vous êtes un crack, vraiment, parce que les dictées sont difficiles. Oh, je n'y pensais jamais 4, hein. Mais j'avais pratiquement jamais 0 faute. J'arrivais toujours à tomber dans l'un de ces petits pièges avec les pluriels des noms composés, puis les jeux de mots de Bernard Pivot, en plus. Bon, ben alors une fois, j'ai été demi-finaliste. Une fois, j'ai été finaliste en 95, déjà. Ça se passait à Versailles. À Versailles, j'ai quand même fait 5 fautes. 5 fautes, c'était trop pour être primé. Il y en avait 3 qui étaient meilleurs que moi, qui sont passés devant moi, évidemment. J'ai recommencé en 98. J'ai été de nouveau demi-finaliste et finaliste. Et alors là, à la finale qui se passait à l'Opéra de Paris le 16 janvier 99, exactement, j'ai eu la chance absolument extraordinaire de faire 0 faute. Alors, évidemment, on me dit quelquefois, c'est parce que c'est grâce à mes connaissances, mais c'est aussi de la chance quand même, hein, parce que mes connaissances, c'est toujours les mêmes, et quelquefois, je fais 3 fautes. Cette année, heureusement que j'ai fait 0 faute, parce que le second, on a fait 1/2, et le troisième, on a fait 1. Alors, j'aurais fait seulement 1 faute, j'étais pas dico d'or, hein. Même avec 1/2, j'étais pas dico d'or. Alors, j'ai fait rigoureusement 0 faute. J'ai évité tous les pièges de pivot, que ce soit des jeux de mots tels que Allen, que j'ai écrit d'abord H-A-L-E-I-N-E, et puis après, j'ai compris qu'il s'agissait de l'outil, et que c'était A-L-E, accent circonflexe, N-E. Bon, alors j'ai évité le petit piège, bon, puis les problèmes d'accord et tout ça, bon. Ben voilà, j'ai été dico d'or. Et quelques mois après, eh bien, j'ai été invité au Québec, à la dictée des Amériques, dictée dans laquelle on sélectionne des champions, puis parmi les champions, on sélectionne des grands champions. Eh ben, j'étais parmi les grands champions. Là, j'ai pas fait 0 faute, j'en ai fait 4. Et les autres en ont fait plus que moi, alors donc j'étais grand champion.
Donc on a un grand champion avec nous, et alors y a-t-il aussi des dictées des dicodores en espéranto ?
Oh ben non. Bah, pour une raison évidente, c'est que l'espéranto est une langue jeune, donc son orthographe est parfaitement phonétique. L'espéranto se prononce comme il s'écrit comme il prononce. Ce qui est vrai pour d'autres langues, mais c'était toujours des langues jeunes. C'est vrai par exemple pour le slovène, pour le slovaque, pour le finnois. Ce sont des langues qui ont une orthographe qui date de 100 ans, 150 ans. Alors bien sûr, elles se prononcent comme elles s'écrivent. Lorsque le finnois aura derrière lui 1500 ans d'existence, on verra ce que ça donnera. Et le français est quand même vieux, puisque le premier texte français connu date de l'an 842, très exactement le 14 février d'ailleurs, c'était le serment de Strasbourg, qui est un français totalement incompréhensible pour nous à notre époque. Alors évidemment, une vieille langue comme le français ne peut pas s'écrire comme elle se prononce. Évidemment, ce n'est pas possible.
Donc tu pratiques l'espéranto dans ta jeunesse et tu en viens à être appelé pour l'Académie d'Espéranto. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est récent?
Oui, en 92 exactement, j'ai été élu à l'Académie d'Espéranto. C'est à l'époque, le président qui à l'époque était André Albo, quelqu'un qui est toujours en vie mais qui n'est plus président de l'Académie, il habite à Toulouse, il me disait, vous devriez vous présenter à l'Académie, vous aurez en tout cas ma voix, c'est certain. Et puis un autre qui était secrétaire de l'Académie, malheureusement il est décédé depuis, il s'appelait Jean Thierry, et il est l'auteur de la méthode à 6000 d'espéranto. Lui aussi disait, oh oui, présentez-vous, bon sang, vous méritez d'être académicien. Bon, puisqu'ils y tenaient, moi j'y tenais pas spécialement, mais enfin ils y tenaient, bon, j'ai fait acte de candidature. Et effectivement, j'ai été élu, je ne sais plus par combien de majorité d'ailleurs, enfin j'ai été élu en 92. Comme on est élu, l'académie est élue, enfin un académicien est élu pour 9 ans, et l'académie est renouvelable par tiers tous les 3 ans. Donc, moi, 92, donc j'étais sortant en 2001. Et en 2001, j'ai été réélu, même assez brillamment, puisque sur la liste des 26, je crois, 26 candidats, il y avait 15 postes à pourvoir. 26 candidats, ma foi, j'ai été élu 5e, je m'en souviens très bien. Donc, assez bien. Donc, je suis membre de l'Académie. C'est surtout un titre honorifique, parce que l'Académie d'Espéranto n'a pas une très très grande activité actuellement. Ça dépend un peu du président, ça.
Copenhago, se chi è stas vi? Copenhago, stanca misteri, ni si ti scuola, cavi se tendo. Ami di sto, oh mia co, ami di alassù, foche si slando. Copenhago, tu vimos la taco. Copenhago, tu vimos la aco. Copenhago, se kia we aco. Nikune fais blano. Se kia, este sweet. Amiris a la sur, foquesis la luz. Copenhago,
til vi tror, vi skal kvinde. Kåben har du til, vi tror, vi skal rime. Kåben har du, så kan vi tro, vi skal rime på kim. Sæt æble på hælde. Vi tror, vi siger en mænd. Og mænd og chilulas, nu går vi jo hjælpe fra deres træs.
Experte en espéranto, en orthographe française, passionnée par les langues, on pourrait se dire que tu étais linguiste.
Ah ben linguiste, ça dépend ce qu'on entend par là.
De profession.
Parce que non, j'étais professeur dans le lycée, professeur dans le secondaire, professeur de sciences naturelles, biologie si on préfère, essentiellement en première et terminale. J'ai fait toute ma carrière donc pour enseigner la mitose, la reproduction chez les mammifères, etc. Toutes choses que j'ai un peu oubliées depuis d'ailleurs, depuis que je suis à la retraite. Non, mais c'est un goût. J'ai toujours eu tendance à m'occuper de m'intéresser à plein de choses. Hein. Alors je m'intéresse, c'est vrai, aux langues, à l'histoire aussi. J'ai fait des recherches historiques. J'ai publié différents petits livres sur différents problèmes, d'ailleurs. Alors, je serais plutôt biologie, enfin professeur plutôt biologie de formation et linguiste et historien par goût.
Justement, on se dit souvent les scientifiques. On classe d'un côté les scientifiques et d'autre côté les littéraires qui aiment beaucoup les langues et on oublie qu'il y a des gens qui s'intéressent vraiment à tout.
Bah bien sûr, bien sûr. La vie serait trop tiche si on s'intéressait qu'à une seule chose. D'ailleurs, j'ai jamais aimé moi les gens qui ne s'intéressent qu'à une seule chose à leur profession. Personnellement, donc, je m'intéresse à pas mal de choses, mais je suis aussi très bricoleur. J'habite dans une ferme depuis que je suis à la retraite, mais j'ai refait toutes les fenêtres, toutes les portes et tous les volets. J'ai une machine à bois dans mon atelier. Alors, je sais un peu travailler de mes mains quand même. Hein. J'ai fait pas mal de choses hein, qui ont même été plus ou moins admirées par des gens qui ont un petit peu le coup d'œil. Alors, j'aime bien avoir pas mal de cordes à mon arc, très agréable.
Pour t'intéresser à tout, ça c'est sûr, quand on voit le service librairie que tu tiens ici, t'as des livres les plus divers, ça va du lexique de la langue gauloise en espéranto, jusqu'une histoire de Jeanne d'Arc et même une méthode de Volapük en préparation.
Oui, c'est vrai, je suis assez pisseur d'encre, hein, parce que j'estime une chose, c'est que d'une part, bon, ça me plaît, et puis j'ai toujours pensé que quand on a une capacité quelconque, si on n'en fait pas profiter les autres, ça ne sert strictement à rien. Alors c'est vrai que j'ai un peu de compétences dans différents domaines, je me dis, il faut absolument faire profiter les autres. Alors c'est vrai que j'écris et ma foi mes livres se vendent pas trop mal. Et ici il y a donc un livre au cerveau où mes livres sont en vente. Et bien ma foi je vois que sur une semaine, on est aujourd'hui mardi, il y a déjà quelques titres qui sont épuisés. J'en ai encore chez moi mais malheureusement ici il n'y en a plus, j'ai pas pris un stock suffisant. Alors oui j'ai écrit pas mal de choses sur des sujets de linguistique. Par exemple en espéranto j'ai un petit livre, enfin petit, il fait 150 pages quand même, hein. Voyage au fil des mots. Je passe en revue le vocabulaire espéranto, pas tous les mots, mais les mots qui posent des petits problèmes. Par exemple, un mot qui serait un faux ami pour les Français, par exemple, ou un mot dont les Français se demandent l'origine. Un Français qui n'est pas linguiste, par exemple, quand il voit qu'une balle pour jouer, il se dit pilko, il se demande pourquoi. Alors j'explique que ça vient du polonais, tout simplement du polonais pilka. Voilà. Alors donc voilà, c'est bien, le titre exprime bien un voyage au fil des mots, un peu au hasard des mots.
J'ai vu que ce livre rencontrait un grand succès ici. J'ai vu qu'il y a aussi de nombreux livres qui n'ont pas de rapport direct avec l'espéranto, qui étaient très achetés. Donc comme quoi, les espérantophones s'intéressent vraiment à tout.
Ah oui, c'est vrai, oui. J'ai écrit un livre sur le sphère de Turin, par exemple. Un livre pas religieux du tout. Je ne suis absolument pas quelqu'un de religieux. Mais le problème du sphère de Turin m'intéresse parce que je me suis dit, bon sang, est-ce que c'est un faux ? Est-ce qu'il est authentique ? En lisant tout ce qui a été écrit là-dessus, enfin... tout, peut-être pas, beaucoup de choses en tout cas, hein. Je suis arrivé à la conviction que je pourrais pas jurer qu'il est authentique, mais disons que tout converge vers la solution authenticité. Alors, comme j'aime bien la vérité, parce qu'au fond, personnellement, moi, ça change rien à ma vie qu'il soit authentique ou que ce soit un faux. Mais comme j'aime bien la vérité, j'ai écrit un livre, au moins 150 pages là aussi, pour expliquer qu'il est très certainement authentique.
Et pour toi, aujourd'hui, que représente l'espéranto ?
pour ce que représente Espéranto. J'ai pas un tempérament de militant, moi. J'ai plus un tempérament de linguiste, de rat de bibliothèque, de chercheur. Ce que représente l'espéranto, pour moi, c'est un outil linguistique absolument extraordinaire. C'est prodigieux, l'espéranto, comme outil. Alors, est-ce que l'espéranto va se développer, va être adopté un peu partout? Alors ça, j'en sais rien. C'est qu'actuellement, l'espéranto se heurte tout de même à la langue anglaise. On dit anglaise, mais c'est plutôt américaine, d'ailleurs, qui est la langue. Bah, la langue, c'est la langue des maîtres du monde. Alors, évidemment, ils l'ont dit d'ailleurs clairement, pour dominer le monde, il faut imposer sa langue. Ah, c'est qu'ils imposent la langue anglaise, qui n'est pas une langue internationale par définition, puisqu'elle est nationale. Il ne peut pas être deux à la fois. Mais ils l'imposent, ils en imposent l'usage international. Alors est-ce que l'humanité finira par être assez sage pour adopter une langue vraiment internationale? Ben, j'aimerais bien, mais hein, je ne connais pas l'avenir.
Et en effet, toi, t'es bien placé pour connaître un peu l'histoire des langues et puis même l'internationalité de l'espéranto. T'as fait plusieurs livres là-dessus pour montrer que l'espéranto n'est pas seulement une langue européenne.
Ben effectivement, j'ai une petite brochure intitulée « Les langues agglutinantes et l'espéranto » et je montre bien, oh, je ne suis pas le premier à le faire, hein, Gaston Varéguin l'a fait avant moi, mais un peu, et Claude Piron, oui, mais un peu en détail, je démontre bien ce que c'est que des langues agglutinantes telles que le hongrois, le finnois, le turc, le japonais, le basque, et je montre que l'espéranto a une structure agglutinante, ce qui rend la langue extrêmement régulière. Et la rend plus facile que si c'était une langue flexionnelle comme le latin, l'allemand ou le russe, par exemple.
Alors, aurais-tu pour finir un petit mot en espéranto pour nos auditeurs?
Moi, en espéranto, do yes, mi desiras bonan libertempon al ciui personoi qui libertempas, kai bonan laboron al ciui personoi qui laboras.
Dankon Andreo, kai gis.
Gis.
Voilà, c'était le portrait d'un homme atypique, hein, quand même, Sébastien. Alors, quelques contacts, hein, parce qu'on l'a vu, André Charpillot a écrit une masse de livres sur tout et tout encore. Donc, peut-être quelques contacts.
Alors,
avoir.
Si vous voulez donc avoir plus d'informations, ben, sur ce monsieur qui a fait plein de choses, et puis vous procurer certains de ses ouvrages, parce qu'il a vraiment écrit sur tous les sujets, il a abordé quelques-uns de ses thèmes, mais alors il y en aurait encore bien d'autres. Son catalogue comporte, je sais pas, une quarantaine ou une cinquantaine d'œuvres en français, et toutes sont traduites également en espéranto. Alors, il n'y a pas d'adresse internet, hein, il n'a pas de site internet. Si, il a une adresse internet, mais alors de tête, il a une adresse internet, mais il n'a pas de site internet. Mais de tête, j'ai oublié de la noter. En tout cas, ben, son adresse pour lui écrire par courrier, il est très courrier. Internet, il a une adresse internet, mais il doit jamais la lire. C'est André Charpillot. Alors, ça s'écrit Charpillod. Hein. Alors, et l'adresse, c'est La Blanchetière. Il n'y a pas de numéro de rue ni quoi que ce soit, c'est un mot, La Blanchetière, hein, comme ça s'entend, en un seul mot, hein, Blanchetière, 72 320, Courguenard, Courguenard. Donc André Charpillot, La Blanchetière, 72 320, Courguenard. Donc là, vous pourrez, ben, si vous voulez lui demander son catalogue avec ses livres, etc. Et l'adresse internet, ça doit être André Charpillot, mais je sais pas si c'est un seul mot, @aol.com.
En tout cas, toute sa bibliographie sera disponible par courrier. Ce sera un plaisir de vous la procurer, et puis vous trouverez sans doute votre bonheur dans la masse d'écrits qu'il a produit.
Et puis éventuellement, si vous voulez obtenir les contacts en allant sur le site avec les émissions, bah, il suffit de nous écrire. Hein. Je peux redonner
l'adresse.
L'adresse,
ouais.
Hein. On l'avait donné qu'une seule fois. C'est http://. RCF Clarté, alors en un seul mot, RCF Clarté sans accent, .esperanto.free.fr.
Voilà, alors là, le mois prochain, Sébastien, un autre invité, hein, pas du tout du même acabit.
Alors oui, un autre invité d'un autre pays d'ailleurs, c'est Attilio Aureliana Rojas, qui est argentin mais qui vit aux Pays-Bas. Qui est quelqu'un également qui a fait pas mal de choses avec l'espéranto, qui voyage beaucoup, lui, hein, je sais pas s'il a beaucoup écrit, mais c'est quelqu'un qui voyage beaucoup par l'intermédiaire de l'espéranto et responsable de plusieurs associations.
Donc lui, ce sera votre invité du mois de janvier. Ben, on va se dire bonne année en espéranto,
voilà.
Sébastien.
Donc en espéranto, bonne année se dit bonan yaron.
Alors bonan yaron à tous.
Kaitis.